sa Dieu, dès la première aurore. Triomphe la lumière, Dieu nous parle aujourd'hui. La parole est à Dieu, avant notre naissance. Déjà il nous appelle, son appel est reçu.
Et Jésus, à l'arrière, sur un coussin, dormait. En ce premier dimanche de l'année 2007, nous avons échangé des vœux en entrant dans ce temple et nous continuerons sûrement à la sortie d'échanger un certain nombre de vœux. C'est l'époque des vœux où l'on se souhaite de bonnes choses pour l'année qui commence, pour cette année qui s'ouvre devant nous, et parfois aussi, car cela va souvent ensemble pour nous, c'est aussi le moment où l'on échange sur les difficultés qui ont émaillé l'année qui s'est écoulée. Nous souhaitons de bonnes choses et nous évoquons les difficultés, voire les catastrophes qui ont pu toucher l'un ou l'autre parmi nous. Comme si le bon était forcément devant et le mauvais derrière. Or, nous savons bien que nos vies sont toujours mélangées et que dans l'année qui s'est écoulée, s'il y a eu bien des difficultés, il y a aussi eu beaucoup de bonnes choses. Et nous savons bien, parce que notre vie est ainsi faite, que si nous espérons de bonnes choses pour l'année qui vient, il y aura aussi sûrement un certain nombre de difficultés qui viendront. Et j'ai donc choisi pour ce matin ce passage où l'on voit Jésus qui est pris entre les sollicitations de la foule qui attendent de lui une parole d'espérance, une parole de consolation, un petit peu comme les vœux que nous échangeons, et puis cette rencontre qui termine la péricope, cette rencontre avec le possédé, qui concentre dans sa vie, dans sa personne, tout ce qu'il peut y avoir de catastrophe, de maladie, de rejet et d'impasse, tout ce qu'il peut y avoir de terrible dans une vie humaine. La foule qui est venue entourer Jésus, qui le presse, attend cette parole, comme nous attendons, nous aussi. Et attend cette parole, les disciples, le texte est précis, attendent plus encore. Ils attendent une connaissance, un enseignement, une compréhension du cours des choses. Et à l'autre bout du texte, le malade va venir assaillir, à proprement parler, se jeter sur Jésus. Le texte que nous avons lu, ce récit de la tempête apaisée, est là au cœur de deux chapitres de l'évangile de Marc qui à la fois présente cet enseignement de Jésus avec cette attente de la foule et puis ensuite tout un ensemble de guérisons, d'actes de Jésus qui viennent appuyer cette parole, nourrir cette attente, cette espérance. Attente de la foule, d'une parole, d'une guérison, et mise en œuvre par Jésus de cette parole, de cette guérison. Et au milieu de toute cette presse, de toute cette attente, de la manière dont il est assailli par le malade, le possédé, Jésus va souhaiter, va demander à ses disciples un temps de distance, un temps de repos, cette traversée. Et pour nous, comme pour beaucoup, ce temps de traversée évoque un temps de calme, une sorte de croisière, et un temps aussi, et cela on ne le repère souvent pas suffisamment, un temps aussi où Jésus ne fait plus rien. Il a remis cette traversée entre les mains de ses disciples, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Il nous est dit, il l'emmène dans la barque. Ce n'est même pas lui qui prend l'initiative. Il se remet entre les mains de ses disciples. Et ils partent vers une autre région. Probablement, car on perçoit ça dans d'autres passages de l'Évangile, avec cette espérance d'un temps de calme, de repos, de prière, sans la foule qui peut venir le presser. Un temps de repos où Jésus puisse recharger ses batteries, comme nous l'ont dit. Entrer dans le repos de Dieu, comme cela est évoqué, selon ce qui est évoqué dans les deux passages de l'Ancien Testament que j'ai lu. Temps de repos qui est déjà marqué dans ce passage avec cette mention qui pourrait paraître tout à fait anecdotique du coussin sur lequel Jésus s'endort. Alors, j'ai lu dans certains commentaires que le coussin représentait le siège sur lequel s'asseyait celui qui commandait le bateau. Il me semble que ce commentaire est tout à fait dommageable au texte, puisque, au contraire, là, on sent bien que le coussin ne représente pas du tout une prise de responsabilité de Jésus, mais au contraire, un moment d'abandon, un moment de confiance, un moment de repos, et nous est-il dit, un moment de sommeil. Jésus dort. La confiance de Jésus est certainement en Dieu, cela nous le savons, mais elle est aussi, et là il me paraît important d'insister, elle est aussi dans ses disciples, dans la manière dont ses disciples ont pris les choses en main, dans la manière dont ses disciples conduisent la barque et font face aux difficultés de la traversée. Il me semble que ce qui permet à Jésus de dormir, c'est sa confiance en Dieu, dans le fait que la tempête ne pourra pas le submerger, mais aussi, certainement, sa confiance dans ses disciples qui manœuvrent la voile, les rames, le gouvernail, et il a confiance dans la manière dont ses disciples vont travailler pour que la traversée puisse s'opérer. Et il me semble que ce passage, avec ce sommeil de Jésus sur le coussin, bien loin d'être une anecdote au milieu de beaucoup d'autres, est bien le cœur de ces deux chapitres. Ces deux chapitres où l'on voit Jésus enseigner d'abord, puis ensuite guérir et libérer les personnes enfermées, les personnes exclues qu'il va rencontrer. Et dans ce récit, c'est bien le cœur de l'Évangile, le moment où on voit apparaître clairement cette relation privilégiée que Jésus a avec son Père, cette confiance que Jésus a en Dieu. On voit aussi s'établir clairement la relation que Jésus a avec ses disciples et aussi avec ses auditeurs. Relation de réponse aux attentes, aux sollicitations, d'acceptation de tout ce qui vient le bousculer, mais en même temps de confiance et de partage. De confiance et de repos possible, parce que le partage a été opéré. Là, une tradition assez répandue dans les églises chrétiennes ne s'y est pas trompée, qui souvent a utilisé ce passage à l'occasion d'un moment particulièrement bousculé dans une vie humaine pour les proches, pour la personne, à savoir au moment d'un décès. Ce verset « Passons sur l'autre rive » qui est au début du récit est souvent cité dans les faire-part de décès. La mention aussi « Il se fit un grand calme » apparaît aussi souvent dans des faire-part de décès ou dans des processus d'accompagnement de personnes gravement malades ou en fin de vie. Cela me paraît tout à fait juste de lire ce texte à ce moment-là, juste mais en même temps un petit peu dommage si l'on ne lit ce texte qu'à ce moment-là. Parce qu'à mon avis, la leçon que l'on peut tirer, l'enseignement que l'on peut recevoir dans ce texte est beaucoup plus large que ce qui concerne seulement une maladie très grave, le deuil, le décès d'une personne. On serait presque tenté d'écrire une sorte de théologie du coussin, de théologie du sommeil. En tout cas, de développer sur cette idée de repos, qui ne s'applique pas qu'à la mort, mais qui devrait, en tout cas c'est ce que j'ai lu dans l'Exode et dans le Deutéronome, s'appliquer à toute notre vie. En tout cas, de manière régulière, à l'occasion du jour du Seigneur, du dimanche, du sabbat. Je ne vais pas entrer dans la discussion sur la différence entre le sabbat et le dimanche, mais il me semble qu'il y a là une répétition d'un temps de repos, d'un temps consacré à renouer les liens avec le Seigneur et avec ceux qui entourent. Il y a là quelque chose qui doit être profondément ancré dans notre vie. Et il me semble que ce texte-là s'applique bien à ce moment-là, mais doit s'appliquer aussi à toute notre vie et à toute la manière dont nous abordons les joies et les difficultés de notre vie, avec au cœur de cette vie ce temps de repos, ce temps de réenracinement dans la confiance en Dieu, d'écoute renouvelée de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu, tant aussi d'un réenracinement privilégié dans la confiance à ceux qui nous entourent, dans l'amour du prochain, avec le mot « repos » qui est à la fois présent dans les trois textes que j'ai lus. Il me semble qu'on peut développer une sorte de déclinaison. Le temps du repos, c'est le temps où l'on se pose, où l'on arrête de s'agiter, où l'on accepte de poser les choses et de se poser soi-même. Et puis c'est le temps aussi où l'on dépose devant Dieu ce qui peut nous angoisser, ce qui peut nous agiter, les regrets que nous avons, le temps où nous pouvons aussi déposer dans les mains de nos frères ce que nous n'avons pas pu accomplir, pas voulu accomplir, parce que nous étions trop chargés, parce que nous n'étions pas capables, parce que nous ne pouvions pas le faire ou que nous n'avons pas voulu le faire. Ce temps où l'on entre dans la confiance en Dieu, dans la confiance en l'autre, et où l'on peut entrer dans un vrai repos. Il est important de voir que ce récit est très court et qu'il occupe finalement peu de place au milieu de tout l'enseignement que Jésus a donné, puis ensuite avec toutes les guérisons et toute l'agitation que Jésus va subir dans la suite du récit de l'Évangile. Mais il est là capital et il permet à Jésus de retrouver des forces nouvelles. Il permet aussi aux disciples de trouver une place nouvelle et de découvrir de quelle manière Jésus attend d'eux qu'ils entrent dans cette confiance, dans cette foi. Je ne pense pas que ce soit seulement un reproche, vous n'avez pas de foi. Mais c'est aussi une promesse qu'ils puissent à leur tour entrer dans ce temps de repos, ce temps où ils sauront, au cœur de l'agitation, se poser et déposer ce qui les inquiète devant Dieu. Alors, il me semble que ce temps de vœux qui est là au début de l'année est tout à fait un temps de repos, comme cela est proposé par ces différents textes. Un temps où l'on peut, les uns et les autres, déposer devant le Seigneur tout ce qui a pesé dans l'année qui s'est écoulée, déposer aussi d'avance devant le Seigneur tout ce qui pourrait nous inquiéter devant nous. Un temps aussi où l'on peut, les uns avec les autres, et devant Dieu, se réjouir des bonnes choses partagées et se souhaiter, et là on en revient au vœu que je mentionnais au début, se souhaiter beaucoup de bonnes choses pour l'année qui vient. Et en sachant que ces bonnes choses ne seront pas vécues seules, ne seront pas vécues dans l'agitation, la préoccupation, mais seront bien vécues dans cette confiance en Dieu qui vient nourrir ce repos, seront vécues dans la confiance avec les autres, dans le partage avec les autres. Que les vœux donc que nous échangeons dans ce début de l'année 2007 ne soient pas qu'une formule, mais soient vraiment la promesse, la construction de ce repos qui permet à nos vies de rester dans la confiance et dans la paix de Dieu. Et je vous souhaite dans cet esprit la meilleure année 2007 possible, dans la bénédiction de Dieu. Amen. Au cantique 31-20, des 3-1.